Havre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. À Paris, un nouveau musée d'art contemporain va voir le jour la semaine prochaine. Si tout va bien, les visiteurs pourront découvrir la collection du milliardaire François Pinault, installée dans le bâtiment qui abritait jadis la bourse de commerce, celle où l'on négociait les produits agricoles, le blé, le maïs et quelques autres. Cette alliance de l'art et du commerce nous fournit une parfaite introduction, justification, pour une émission consacrée au marché de l'art. Un marché de l'art dont on parle quand un Picasso, un Van Gogh, un Jeff Koons battent des records lors de ventes aux enchères à Paris ou à New York. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un tableau de Pablo Picasso a dépassé la barre des 100 millions de dollars à New York. Mais ce marché de l'art est aussi beaucoup plus vaste que celui des grandes ventes aux enchères et de Dakar à Pékin, de Moscou à New York. Il concerne des millions d'artistes, de galeristes qu'il fait vivre, difficilement souvent, sans oublier les amateurs d'art, les acheteurs, petits ou grands collectionneurs. Alors ces artistes, ces galeristes, comment s'en sortent-ils aujourd'hui en pleine pandémie? Les revenus de ce secteur se sont-ils effondrés? Les artistes, peintres, sculpteurs, auteurs d'installations sont-ils en pleine galère? Les galeries qui les vendent ont-elles dû fermer boutique ou au contraire ont-elles profité des liquidités des plans de relance? De nouveaux acteurs profitent-ils de la situation pour s'épanouir? En un mot commençant, assiste-t-on à une mutation du marché de l'art? Voilà les questions que nous allons poser au fil de cette émission aux quatre invités que je vous présente maintenant. Bonjour Xin Dongcheng.
Bonjour.
Xin Dongcheng, vous êtes loin et près à la fois, puisque vous êtes à Pékin, où vous êtes un grand collectionneur et galeriste, grand connaisseur de la France, aussi dont vous avez d'ailleurs la nationalité. Avec vous dans cette émission, une autre galeriste. Bonjour Marion Papillon.
Bonjour.
Marion Papillon, vous dirigez la galerie qui porte votre nom Papillon et qui a été fondée par votre mère il y a 32 ans, Claudine Papillon. Vous êtes par ailleurs présidente du comité professionnel des galeries d'art. Toujours au téléphone avec nous, François-Xavier Trancard, bonjour.
Bonjour.
François-Xavier Trancard, vous êtes l'un des fondateurs de la plateforme internet Artspair, qui offre une extension numérique aux galeries traditionnelles. Enfin, je termine ce tour de table par vous, qui est en studio, Nathalie Moureau, bonjour.
Bonjour.
Nathalie Moureau, vous êtes professeure d'économie à l'université Paul-Valéry de Montpellier 3. Vous vous intéressez au marché de l'art, auquel vous consacrez des rapports et des livres, comme celui que vous avez publié à la découverte et qui s'appelle tout simplement « Le marché de l'art dans la collection Repère ». J'ajoute que vous êtes trésorière du FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, celui d'Occitanie, les FRAC étant des institutions publiques dont le but est de soutenir financièrement l'art contemporain. Dans cette émission des reportages, bien sûr, nous avons rendez-vous avec Théa Olivier à Dakar et ici à Paris avec Anne Verdaguet et José Marinho. Alors, je voudrais d'abord qu'on définisse ce dont nous allons parler, le marché de l'art, pour être précis, dont il va être question dans cette émission, c'est celui des arts plastiques. Les tableaux, les sculptures, les installations, et pas le marché de la chaussure ou le marché de la basket. Marion Papillon, comment se porte de votre point de vue de galeriste ce secteur aujourd'hui en France? Est-ce qu'il a été épargné par l'impact de la pandémie?
Épargné, ce serait difficile de le dire. En effet, on a, depuis le début, enfin tout au début de la crise, essayé de connaître un petit peu l'impact sur les galeries. Le premier impact a été celui de l'annulation et le report des foires. Donc évidemment un manque à gagner important pour les galeries puisque l'annulation très rapide, hein, puisque en mois de mars on a vu toutes les annulations de foires de printemps, que ce soit les foires de niche telles que Drawing Now ou le Salon du Dessin Ancien, mais aussi les plus grosses foires comme Art Paris et un certain nombre de foires aussi à l'étranger qui ont été annulées. Donc,
pour être précis, Marion Papillon, une foire comme la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain de Paris, qui est un grand événement annuel en principe, c'est quel pourcentage des ventes d'une galerie comme la vôtre?
Évidemment, ça dépend. Ça dépend. Je pense que ce n'est pas du tout fixe, mais on espère toujours un chiffre d'affaires relativement important. Nous avions fait une étude au Comité professionnel des galeries d'art il y a quelques années, avec l'aide d'ailleurs de Nathalie Moureau, et on avait évalué que, en moyenne, le chiffre d'affaires des foires en général, hein, et pas seulement de la FIAC, pouvait être en moyenne autour de 30%. Même si pour certaines galeries, cela peut être plus important, notamment pour des galeries qui ont pu se spécialiser sur des artistes étrangers ou des choses comme ça, ça peut être un pourcentage important. Et puis évidemment, il y a une différence entre les foires locales, même si elles sont internationales, et puis un certain nombre de galeries qui peuvent faire des foires à l'étranger, et parfois en faire un certain nombre.
Nathalie Moureau, qu'est-ce que c'est qu'une galerie d'art sur le plan économique ?
C'est une toute petite entreprise. Sur la période récente, il y a quand même eu une évolution. C'est-à-dire que pendant très longtemps, à la différence de ce qu'on a dans les industries culturelles, livres, disques, cinéma, ou d'un point de vue économique, on dit qu'on a un oligopole avec Franche, c'est-à-dire on a quelques gros acteurs qui sont les majors, par exemple, dans la musique, et puis tout un tissu de petites entreprises, de petits indépendants qui cherchent les nouveaux talents. Sur le marché de l'art, pendant très longtemps, on avait de toutes petites structures qui n'avaient pas de pouvoir de marché au sens où elles étaient en concurrence les unes avec les autres et elles ne pouvaient pas imposer leur valeur au détriment des autres. Mais sur la période récente, depuis 10-15 ans, on voit une évolution du marché et la montée de gros acteurs, de grosses galeries, Gagossian, Zwirner, etc., qui ne sont plus des toutes petites entreprises et qui, elles, ont le pouvoir de marché. Et du coup, on se rapproche de ce qu'on a sur les industries culturelles, livres, disques, cinéma, avec des gros qui dominent le marché.
C'est-à-dire c'est des galeries qui ont des antennes un peu partout, des locaux où on peut se rendre pour acheter des tableaux les grandes capitales.
Justement, les gros majors ont des antennes un peu partout. Gagossian, je ne sais plus exactement combien ils ont d'antennes, mais ça doit être autour de 15 ou 17.
Gagossian, c'est une galerie new-yorkaise à l'origine.
Oui, c'est une des plus grosses galeries au monde, avec Zwirner également. Donc, ils ont des antennes un peu partout. À côté de ça, vous avez une myriade de galeries dans le monde qui sont des toutes petites structures avec un nombre d'employés très restreint. Vous pouvez avoir dans une galerie 4 personnes au total, les directeurs, puis les employés. C'est vrai que quand on parle du marché de l'art, on a l'impression d'avoir des chiffres mirobolants. Vous parliez tout à l'heure, vous comparez par rapport au marché de la chaussure. Et on va parler de sommes peut-être astronomiques, vous parliez du Picasso. Mais le marché de l'art dans son ensemble, c'est-à-dire art contemporain, art ancien, galerie, plus vente aux enchères, c'est à peu près 65 milliards de dollars. Tout compris, c'est un rapport qui estime ça. Si vous regardez le chiffre d'affaires de LVMH dans le monde, vous êtes vers 55 millions d'euros.
Milliards.
Ouais. Donc, c'est quasiment le même montant. Donc, vous voyez qu'on parle de chiffres astronomiques, mais en même temps, c'est un petit marché relativement à d'autres champs économiques.
Shim Dong-Cheng, à Pékin, vous partagez cette vision du marché de l'art, d'un marché de l'art qui est en mutation, qui est en train de s'ouvrir à des grosses structures ?
Dans certains sens, oui, parce que cette mutation de marché d'art en Asie, et quand on parle de l'Asie, parce qu'il y a différents pays comme le Japon, comme Corée du Sud, et comme Taïwan, Hong Kong, etc., sont très différents par rapport au marché d'art en Chine. Et en même temps, ce marché est en plein développement et en train de s'exposer.
Shin Dong-Cheng, parlez-nous de votre galerie. Elle est située à Pékin, en plein centre de la capitale chinoise. Qu'est-ce que vous exposez ? Quelle superficie est-ce que vous avez ? Décrivez-nous votre activité.
Et j'ai créé ma propre galerie en l'an 2000 à Pékin, après une dizaine d'années de mes expériences en France. Et puis 2000... comme le marché d'art en Chine. Avant l'an 2000, il n'y avait pas de marché d'art après la révolution culturelle. Et après le succès économique de la Chine depuis 1980, maintenant il y a plus de 1000 galeries chinoises dans tous les secteurs, dans le secteur de l'art ancien et aussi dans l'art contemporain. Et le marché, les ventes aux enchères, parmi les 2 maisons de vente chinoises, parmi les 5 top du monde, extraordinaire, parce qu'il y a des grandes galeries chinoises qui participent beaucoup de grandes foires d'art contemporain. Et moi, je suis spécialisé dans l'art contemporain. Et j'ai aussi représenté des grands artistes français comme Marcel Reiss, comme Daniel Buren. Et, et aussi les 70% ce sont des artistes chinois de trois générations, plutôt après la révolution culturelle.
Et dites-nous, décrivez-nous votre galerie à Pékin, quelle superficie fait-elle ?
Je suis basé à Pékin, pour l'instant j'ai trois galeries différentes, pour différentes fonctions, et environ, les superficies, environ 1000 mètres carrés.
Nathalie Moreau, ce marché chinois, il est en train d'exploser aussi ?
Alors, en fait, c'est assez intéressant car monsieur a dit qu'il avait ouvert sa galerie en 2000 et c'était le début de l'émergence du marché de l'art chinois. Quand on regarde sur le marché de l'art mondial, pour les Français et dans le monde aussi, il y a une date qui était vraiment marquante, c'était en 2007. Hein, puisque quand on regardait l'ordre des pays, les ventes d'enchères dans le monde, il y avait les États-Unis et la Grande-Bretagne qui faisaient à peu près 70% du marché. La France était troisième, loin derrière, puisqu'elle faisait 6% du marché. Il y avait la Chine en quatrième à 5%. Ça, c'était en 2006. Et en 2007, la France a perdu son rang de troisième place. La Chine lui a pris sa place. Elle avait 7%. Et depuis, elle n'a cessé d'augmenter. En 2007, elle était troisième avec 7%. Et en 2010, elle devait être à 33%. Et elle dépassait, elle a dépassé certaines années, même les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Quand vous dites dépasser, vous voulez dire dans les ventes aux enchères ?
Oui,
Il y a plusieurs marchés de l'art, parce que la plupart des artistes n'ont pas accès à ces marchés, à ces ventes aux enchères.
Exactement. Là, en plus, en mesurant les ventes aux enchères, c'est ce qu'on appelle le second marché, c'est le marché de la revente d'œuvres. Et pour l'art contemporain, il faut que les artistes aient acquis un certain niveau de notoriété pour accéder à ce marché. Mais c'est vrai que quand on parle du marché de l'art, très souvent, et des données générales, tout à l'heure j'ai parlé de 65 milliards de dollars, là c'était le marché en général, mais il y a un seul rapport qui estime ça à partir d'enquêtes auprès des chiffres d'affaires de galeries. Mais usuellement, là, ce que je viens de vous donner sur la place de la Chine, on est plutôt uniquement sur la mesure des ventes aux enchères. Et ce qu'on mesure, c'est la place de marché. C'est-à-dire quand on parle de New York ou de Paris, de Londres.
Ou de Londres,
exactement, c'est comme une place de marché, c'est comme la bourse. Et sur ces places de marché, on échange des artistes américains, anglais, allemands,
chinois,
français également. Et voilà. Donc quand on dit que les États-Unis sont les premiers en termes sur le marché de l'art. C'est
dans les ventes aux enchères.
Oui, c'est dans les ventes aux enchères. Et ce qu'il y a, c'est qu'aussi corrélativement, de par leur puissance économique, la taille du pays, etc., leurs artistes sont aussi très cotés, très reconnus artistiquement, etc. C'est corrélé dans ce cas-là.
Alors, on va aller voir à Paris, Marion Papillon, ce qui se passe concrètement sur l'autre marché, pas celui des ventes aux enchères, mais celui des galeries. Comment est-ce que ce monde, cet univers des galeries parisiennes a résisté à la pandémie ? Comment est-ce qu'il s'adapte à la situation ? Comment est-ce qu'il sort sur les plans de relance ? Avec ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Anne Verdaguet, dans les galeries parisiennes.
Galerie Jocelyn Wolff à Romainville, J-8 avant la réouverture au public. Au sous-sol, l'équipe sort d'une caisse en bois, un bronze venu du Portugal, tandis qu'au rez-de-chaussée, l'exposition d'une artiste argentine mise en attente forcée est encore visible.
Là, en fait, vous êtes dans l'exposition d'Irénée Koppelmann, qui est notre expo covidée, c'est-à-dire qu'elle a été fermée au bout d'une semaine et qu'on attend de pouvoir réouvrir, peut-être pour quelques jours, avant qu'on programme une nouvelle exposition.
Jocelyn Wolff emploie près de 10 salariés. Leur présence fluctue au rythme des ouvertures et des fermetures depuis un an.
Alors c'est un peu étrange parce qu'aujourd'hui on est spécialement nombreux, mais oui, on essaye de se remettre un tout petit peu en ordre de marche.
Le chiffre d'affaires a plongé de 40% en 2020 et l'expérience du premier confinement reste dans les mémoires.
On vous interdit d'ouvrir, d'exploiter votre commerce, c'est assez violent. Notre activité est contrainte, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus faire des foires, on ne peut plus voyager, nos clients ne peuvent plus nous voir, parce qu'on fait quand même à peu près 80% de notre chiffre d'affaires à l'export. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps ? Et je pense qu'il vaut mieux à ce moment-là se concentrer sur un travail de recherche, faire le gros dos économiquement, accepter de perdre de l'argent, en tout cas pendant quelques mois, ce qui est très compliqué hein, psychologiquement, de perdre de l'argent, mais en se disant que le temps que vous mettez à profit, non pas pour essayer de vendre 2-3 pièces en plus au forceps, mais vous l'investissez dans le travail de constitution de dossiers, de mieux comprendre les œuvres aussi que vous avez à disposition, et d'arriver aussi à les valoriser davantage. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont profité de ce temps pour travailler, ce qui est tout à fait différent de l'idée de « on attend ».
Les galeries d'art à la recherche d'un nouveau paradigme dans un métier organisé autour des rapports humains. À la toute jeune galerie Love & Co. en plein quartier latin, les œuvres sont à présent disponibles en click and collect, 30 à 40% moins cher.
Alors on a été totalement dépassé même par le succès.
Stéphane Correa, le cofondateur de la galerie Love & Co.
On a voulu créer un peu un calendrier pour les gens qui étaient comme nous confinés. Et donc tous les jours à 10h du matin, on révèle une nouvelle œuvre. Par mail, sur les réseaux sociaux, effectivement, virtuellement. Nous, ça nous a semblé intéressant de nous saisir de cette période pour, disons, mettre en lumière un certain nombre de paradoxes, comme celui-là que l'art moderne peut-être, ou historique peut être moins cher que l'art contemporain, que les galeries peuvent être moins chères que les salles des ventes, etc. C'est-à-dire rebattre un petit peu les cartes, et je crois que c'est aussi ce qui a fait qu'on a gagné une audience nouvelle.
Non loin de là, de l'autre côté de la Seine, face à Beaubourg, la galerie Poggi a poussé la réflexion autour du rapport entre l'œuvre et le collectionneur, investissant 200 000 euros de son prêt garanti par l'État dans son tout nouvel espace, ambiance, cosy et salon boudoir.
Pour moi, ça a été une année assez providentielle, qui est arrivée à un moment de questionnement du modèle du marché de l'art, qui était particulièrement intense, voire à la limite de l'hystérie.
Jérôme Poggi, fondateur de la galerie éponyme.
Je pense que c'est une crise profonde dans nos façons de travailler, de penser le monde, dans notre rapport au temps. Et c'est ce que j'ai voulu incarner ici à la galerie, en transformant l'architecture de manière à pouvoir être plus en harmonie avec la temporalité des œuvres, le temps long et le silence des œuvres. Et donc, en conférant à la galerie un espace beaucoup plus intime, plus intériorisé, plus confiné, dans le bon sens du terme, et qui intensifie l'expérience que les visiteurs peuvent avoir avec les œuvres.
Une sorte de bulle espace-temps dans le tumulte de la ville pour prendre le temps de repenser l'art du commerce et le commerce de l'art.
Jolie formule d'Anne Verdaguet qui signait ce reportage. Marion Papillon, comment vous l'entendez, vous, cette remise en question de ces galeristes ?
En effet, les galeries se sont beaucoup adaptées. On fait vraiment preuve, on sait que c'est le mot à la mode, de résilience depuis un an. Alors, c'est vrai que la première fermeture a été pour certains très compliquée, puisqu'en effet, il a fallu cette inquiétude de la fermeture des foires, du report d'exposition, la fermeture des musées. Donc il a fallu réagir. Les galeries ont réagi différemment et notamment vis-à-vis de leurs clients. Un certain nombre de galeries se sont plutôt concentrées sur leur noyau dur, on dit souvent, à leur clientèle fidèle qui les ont soutenus et qui les ont accompagnés dans cette période difficile. D'autres, en revanche, ont plutôt se sont déployés pour justement aller chercher de nouveaux clients, des gens qu'elles ne connaissaient pas. Donc il y a eu toute une diversité d'actions et on a vu à la première réouverture au mois de mai, un afflux du public relativement important. Ça s'est déployé encore plus en début d'année 2021, quand les musées n'ont pas réouvert, et on a eu une hausse de fréquentation relativement visible, on peut le dire, avec un public qui ne connaissait pas forcément bien les galeries, qui a accepté de franchir cette porte, et tout d'un coup de se rendre compte que nous sommes des lieux ouverts toute l'année, gratuits, en accès libre, avec une programmation plutôt rythmée, puisque en dehors des périodes de confinement, une galerie en général fait une exposition, renouvelle son exposition toutes les 5 ou 6 semaines. Donc c'est en général une belle programmation, une programmation évidemment réfléchie. Les galeries soutiennent en moyenne plus de 20 artistes, à peu près à Paris en tout cas. Il faut comprendre qu'on fait entre 5 et 6 expos par an, donc plus le rythme des foires, etc. Donc c'est tout ce travail qui est, on va dire... pour tirer un petit peu profit de cette crise, c'est quand même ce travail qu'on a réussi, je crois, à mettre en avant et à montrer à un public qu'on espère pouvoir fidéliser au-delà de la crise.
Au-delà de la crise.
J'espère, bien sûr. Aujourd'hui, les galeries et les musées vont réouvrir et on est très très heureux que les musées réouvrent. Et je crois que c'est important de le souligner parce que l'activité des musées est une activité qui fait partie de l'ensemble de l'écosystème du marché de l'art. Et les galeries ont autant besoin que les musées soient ouverts, que les œuvres soient diffusées et montrées au public. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une œuvre qui est montrée dans une exposition dans un musée, généralement, elle est passée par une galerie avant. Et donc on espère que justement ce public qu'on a vu arriver dans les galeries en ce début d'année se rendra compte dans quelques temps que les œuvres qu'ils ont pu voir dans une galerie un jour vont se retrouver dans un musée.
C'était Codici et Codailleurs sur RFI. Nous parlons du marché de l'art avec quatre invités. Marion Papillon, galeriste à Paris, présidente du comité des professionnels des galeries d'art que vous venez d'entendre. Nathalie Moureau, professeure d'économie à l'université Paul Valéry de Montpellier qui est ici en studio. Xindong Sheng, grand galeriste de Pékin que nous allons entendre dans un instant. Et puis François-Xavier Trancard qui est resté silencieux jusqu'à maintenant et auquel je donne la parole. François-Xavier Trancard, dans le reportage d'Anne Verdaguer, on entendait ce galeriste dire que il mettait une œuvre en vente sur les réseaux sociaux et sur Internet tous les jours à 10h. Est-ce que c'est une traduction d'une nouvelle manière de vendre l'art? Maintenant, plus besoin d'venir renifler le tableau ou la sculpture, de tourner autour, de la regarder. Il suffit de la voir sur Internet.
Je dirais pas complètement ça. C'est un nouveau modèle qui est, on va dire, complémentaire. Et c'est surtout, comme le disait Marion Papillon, un moyen aussi d'attirer des nouvelles personnes, des amateurs d'art qui n'auraient peut-être pas osé franchir la porte d'une galerie avant et qui, depuis un an, ont découvert grâce au digital, grâce à toutes ces galeries qui ont mis en place ce genre de système, comme la galerie dont on a entendu dans le reportage, des nouveaux moyens de découvrir des œuvres. Nous, on est là pour justement aller toucher un public nouveau. Encore plus en termes de confinement et de restrictions. Alors, les gens ne pouvaient pas voyager.
Décrivez-nous le travail que fait votre site internet Artspair, François-Xavier Trancard.
Alors nous, tout à l'heure, on parlait de place de marché. On est une place de marché pour galeries d'art. On travaille aussi bien avec des toutes petites structures qui ne participent pas forcément à des foires ou à des grands salons internationaux, mais aussi avec des galeries plus connues comme Perrotin, comme Templon.
Et notre qui vision... sont des grands noms de galeries d'art à Paris, en particulier Templon, qui est là depuis très longtemps.
Exactement. Et du coup, on met en vente des œuvres d'artistes connus ou de jeunes artistes disponibles à l'achat directement sur la plateforme. Aujourd'hui, il y a environ 170 000 œuvres disponibles pour tous les prix, pour tous les styles, pour tous les types de médiums. Et notre idée, on travaille exclusivement avec des galeries, c'est de proposer un prolongement de la galerie en ligne.
Alors, je me suis rendu sur votre site, François-Xavier Trancard, et j'ai eu la surprise de découvrir des œuvres qui se vendaient à partir... d'une centaine d'euros. Comment est-ce que vous, comment est-ce que la galerie et comment est-ce que l'artiste peuvent vivre avec des œuvres aussi peu chères?
Alors, ça va être sur les œuvres à quelques centaines d'euros. Ça peut être des éditions, des dessins de jeunes artistes qui sortent tout juste, on va dire, d'école. Et ensuite, on a évidemment des œuvres à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros disponibles. Et nous, on travaille avec la galerie qui ensuite rémunère son artiste suite aux ventes.
Xindong Sheng, à Pékin, est-ce que les ventes sur Internet accompagnent aussi vos galeries et vos expositions?
Pour les galeries, c'est un autre travail. Pour les maisons de vente, c'est travailler différemment. C'est le deuxième marché. Mais évidemment, tout le monde, après la crise, tout le monde cherche une nouvelle méthode de travail. Et pour chacun qui a ses propres moyens, méthodes pour survivre. Et pour les galeries d'art, c'est plutôt comment il faut trouver une nouvelle méthode pour promouvoir les artistes. Et maintenant, avec la facilité de la communication, du développement de haute technologie, etc., bien sûr, il faut travailler avec tous les moyens possibles. Et la crise qui a beaucoup changé le monde de l'art et aussi toutes nos vies quotidiennes. Et tout le monde, on cherche, parce que pour moi, j'ai remis à disposition une équipe, justement, comment pour utiliser cette haute technologie connectée avec le reste du monde, parce que la crise nous a stoppé de voyager et de stopper de participer des fois dans quatre coins du monde. Et on travaille, bien sûr, en Chine, comme la situation un peu... assez mieux contrôler les pandémies et finalement on a continué à participer des fois à Shanghai, à Pékin depuis un an, mais on ne peut plus voyager et à l'étranger. Et c'est ça que je crois que c'est pour les galeries ou soit pour les maisons de vente. Maintenant c'est très important de travailler online.
Xindong Sheng, qui est-ce qui vient dans vos galeries vous acheter des tableaux?
Et les 30% des clients qui viennent du monde entier. Et maintenant, comme le marché d'art est beaucoup développé, les nouveaux collectionneurs chinois sont arrivés. Et pour moi, maintenant, j'ai plus de collectionneurs locaux que de collectionneurs internationaux. La situation a changé entre l'an 2000 et 2015, j'avais plus de collectionneurs internationaux. Et maintenant, depuis 2015, c'est plutôt des collectionneurs chinois. Et ça, c'est un nouveau marché dans plein d'expansions.
Est-ce que ce sont les milliardaires chinois qui viennent chez vous? Est-ce que ce sont des gens plus jeunes et parfois bien éduqués?
Et c'est très mélangé. Bien sûr, il y a des milliardaires, parce que c'est les gens qui sont bien profités au début de la réforme économique. Ils sont enrichis, ils sont plutôt entre 50, 70 ans. Et cette génération qui a jamais eu l'éducation artistique, mais ils ont rapidement compris l'art, c'est un marché, c'est un bon produit d'investissement. Il achète plutôt pour le plaisir, en même temps pour l'investissement. La nouvelle génération, les secondes et troisième génération, comme les parents et les grands-parents sont enrichis, ils sont tous ces gens-là, ils sont étudiés à l'étranger, ils sont bien visités les musées des quatre coins du monde, ils achètent plutôt l'art contemporain et la première génération plutôt l'art ancien, l'art un peu d'antiquité, l'art chinois. Et une grande partie des artistes internationaux, c'est vraiment un marché très vivant et très divers.
Nathalie Moureau, les collectionneurs internationaux, ils répondent à ce profil, correspondent à ce profil qu'on retrouve en Chine?
Ben, c'est-à-dire que, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes Chinois. Vous avez séparé les jeunes Chinois et les milliardaires, mais vous savez qu'il y a des jeunes Chinois
des jeunes
qui milliardaires. Sont milliardaires.
Oui,
donc,
oui.
Justement. Oui, sur le plan international, il y a eu une explosion du nombre de milliardaires dans le monde, notamment dans les pays du BRIC.
Les pays du BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.
Voilà, exactement.
Et puis on ajoute l'Afrique du Sud.
Exactement. Ouais. Ce sont des collectionneurs qui, usuellement, achètent plutôt dans les grosses galeries, aux enchères. J'ai oublié le nom de cette collectionneuse chinoise, mais peut-être que notre correspondant nous le dira.
C'est une
grande collectionneuse qui explique que quand elle n'a pas beaucoup de temps pour regarder, chercher des informations sur les artistes, donc quand elle prend l'avion, elle regarde ce qu'il y a en tête de couverture du catalogue de vente de Sotheby's et de Christie's et elle décide d'enchérir là-dessus. Donc vous voyez que c'est un certain profil de collectionneurs qui sont ciblés sur certaines valeurs, etc.
Mais le marché de l'art, c'est un marché purement spéculatif d'investisseurs?
Non. Et justement, je voudrais revenir sur cette idée du développement du marché en ligne, des plateformes, etc., que vous avez abordé. Il faut faire attention, parce que c'est pas... effectivement, tout le monde parle d'Internet en disant que le marché va migrer sur Internet, etc. Personnellement, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que, comme dans toute la culture, il y a le rôle de l'édition, de l'éditeur pour le livre. Le rôle de l'éditeur, c'est celui qui va sélectionner les ouvrages, qui va les publier. Ensuite, il y a le rôle des bibliothèques, enfin des librairies qui accompagnent aussi. Et sur le marché de l'art, le rôle du galeriste qui développe la carrière de l'artiste, qui accompagne l'artiste, et on le voit bien dans ce qui a été dit, Jérôme Poggi, par exemple, qui dit « Je développe dans ma galerie cette rencontre, ce lieu de rencontre. »
Jérôme Poggi, on l'a entendu
dans le reportage. « Je développe une certaine intimité et ce lieu de rencontre aussi avec les collectionneurs pour discuter, pour échanger, pour accompagner les collectionneurs et leur expliquer l'œuvre. Ça, c'est des choses que vous ne trouvez pas en ligne, où bien, vous pouvez avoir des choses très hétérogènes du point de vue de la qualité. Et comment est-ce que vous pouvez repérer cette diversité dans la qualité? Eh bien, il y a des logiques après de noms, etc., qui peuvent vous donner confiance. Et on a aussi évoqué les foires, et vous avez demandé quel est le pourcentage de vente dans les foires. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les galeristes ne font pas nécessairement des chiffres d'affaires mirobolants dans certaines foires. Il y en a qui jouent comme une labellisation, c'est-à-dire être accepté à Art Basel, présenter des œuvres à Art Basel.
Alors Art Basel, c'est une grande foire d'art contemporain qui est à Bâle. À Bâle. Voilà, en Suisse, et qui est un des grands rendez-vous de ce marché mondial de l'art.
Exactement, et qui est aussi à Hong Kong et à Miami. Ils ont ouvert des antennes. Mais c'est une foire où il y a une très grande sélection des galeries. Et donc, pour une galerie, être à Bâle, c'est aussi être reconnu comme une galerie de qualité, etc., un label. Et il y en a qui ne vendent pas, mais c'est un peu comme un moyen de vous faire du réseau et de vous vous faire reconnaître. Donc il y a ce problème de gestion de l'incertitude. Et aujourd'hui, sur Internet, quand vous êtes sur une plateforme, que vous présentez des artistes, etc., les acheteurs font face à cette incertitude sur la qualité. Qu'est-ce qui leur dit que telle galerie qu'ils connaissent pas, etc., est une galerie qui accompagne les artistes dans leur carrière, va chercher à les placer dans des institutions, va chercher à les faire entrer dans l'histoire de l'art. Et ça, c'est tout le côté du marché non spéculatif. C'est-à-dire, c'est pas un côté uniquement médiatique, mais on accompagne un artiste dans une carrière et on travaille à sa légitimation, à sa reconnaissance institutionnelle. Et ça, c'est très important. Et c'est un autre côté du marché dont on parle assez peu, puisqu'on parle que du marché médiatique qui fait des chiffres records, etc.
Alors, Nathalie Moreau, on va demander à François-Xavier Trancard de réagir à ce que vous venez de dire. Mais d'abord, je voudrais vous dire qu'à RFI, on suit évidemment ce marché de l'art d'assez près. Et par exemple, au mois de janvier dernier, on s'était intéressé sur les antennes d'RFI à ce qui se passait sur ce marché de l'art face à la pandémie et à la manière dont il s'y adaptait. Et au service culture de RFI, on s'était penché sur l'émergence justement de ces plateformes internet, de cette vente, et ça avait donné lieu à ce reportage de José Marinho qu'on écoute maintenant.
Le constat de toutes les enquêtes est clair, l'épidémie a dopé le marché de l'art sur la toile. Le réseau est devenu une plateforme d'affaires considérable, les maisons de vente aux enchères se sont rapidement adaptées et basculé pratiquement toutes leurs activités en ligne. Émilie Villette est la directrice du développement chez Christie's.
Crise sanitaire a eu un effet indéniable dans le monde de l'art et tout particulièrement dans le marché de l'art avec une montée en puissance du digital absolument manifeste. Ça a été une année de bascule, de transition et un accélérateur assez formidable qui nous positionne finalement déjà presque dans le monde de demain. C'est vraiment la montée en puissance des ventes digitales à proprement parler, c'est-à-dire celles qui se passent sur la plateforme de vente aux enchères de Christie's, donc sans commissaire-priseur, qui sont entièrement dématérialisés. On en a fait plus de 200 à l'échelle mondiale des ventes. Si vous voulez, chez Christie's, en un an de vente aux enchères en ligne, on a fait autant que les 4 dernières années réunies. Juste par rapport à 2019, c'est un bond de 3,5%. Ça faisait 10 ans qu'on faisait des ventes aux enchères en ligne, purement. Mais elles n'avaient jamais pris la mesure et l'importance qu'elles ont eu cette année. Clairement, de ce point de vue-là, les chiffres seront des chiffres historiques.
Tout aussi surprenant, l'engouement intact pour les objets exceptionnels. En témoignent les résultats vertigineux des ventes en ligne de Sotheby's. Mario Tavella est le président de la célèbre institution en Europe.
On avait commencé avec un bracelet de Cartier au début de l'année 2020, une vente en lot online. On l'a vendu au-delà de 1,3 million $ et c'était vraiment un test incroyable. Et là, on s'est dit, OK, on y va. C'était un choix un peu obligé. Et la France aussi, on a assisté au même phénomène. On a augmenté du 100% à Paris les ventes online. On a vraiment assisté à un tsunami, à une révolution. On a fait en 2020 25 ventes online et on est passé de 6 millions d'euros à 30 millions d'euros online. Même les acheteurs les plus traditionnels et les plus classiques, ils se sont convaincus que c'est le futur. Je suis à 200% convaincu.
L'appétit des acheteurs ne faiblit pas malgré la crise sanitaire et la hausse significative des frais des enchères en ligne. Le virage vers un modèle basé sur le clic se confirme.
Vous confirmez ce reportage de José Marinho de votre point de vue, François-Xavier Trancard? Est-ce que ça a été une année bascule 2020-2021?
Oui, complètement. 2020 et encore début 2021, aussi bien d'un point de vue d'adoption côté galerie, qui se sont vraiment tournées vers le digital, qui ont vraiment pris le pas de la vente en ligne, et aussi bien côté, on va dire, des néophytes, nouveaux acheteurs qui avaient plus de temps, avaient peut-être aussi plus de moyens pour se tourner vers l'art et prendre le temps d'acheter leurs premières œuvres. J'aimerais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure,
oui,
dans le reportage. Il y a un point où je suis complètement d'accord. Nous, on croit absolument
avec
pas.
Avec Nathalie Moreau. Oui.
Exactement, avec Nathalie Moreau. Son premier point, je suis entièrement aligné avec elle sur le fait que Internet ne va pas remplacer les galeries d'art, ne va pas faire disparaître le métier de galeriste, loin de là, et c'est pour ça que nous, on s'est basé uniquement sur les galeries et c'est vraiment le pilier fondateur de notre modèle en ligne, de travailler exclusivement avec des galeries pour justement mettre en avant ce travail d'expertise, d'accompagnement, d'exposition des artistes qui est indispensable pour justement faire une sorte de tri sur, de premier tri sur le marché de l'art et pour accompagner des jeunes artistes ou des artistes aussi plus confirmés dans leur carrière. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord avec elle et Internet est pour moi un canal supplémentaire qui vient pas cannibaliser les collectionneurs existants, qui vient pas cannibaliser les visiteurs de foires, mais c'est juste une nouvelle porte d'entrée pour certaines personnes qui n'ont pas forcément accès géographiquement ou qui n'ont pas forcément les mêmes attentes que les collectionneurs existants et aussi une nouvelle génération. Donc là-dessus, je pense qu'on est aligné. Là où j'étais un peu plus en désaccord, c'est Internet permet de donner un maximum d'informations. Quand on dit qu'on ne peut pas avoir le discours de la galerie ou de l'artiste en ligne, je suis pas d'accord avec ça parce que justement, vous pouvez retrouver toute la carrière de l'artiste, c'est l'endroit où il est exposé, toutes ces données très facilement sur Internet, ce qu'on n'aura peut-être pas forcément sur une foire quand vous passez de stand en stand. Donc c'est aussi un moyen d'avoir plus d'informations, de retrouver aussi ce que la galerie a envie de dire sur l'artiste. Nous, en tout cas, on fait un gros effort de aussi bien de modération et de contenu sur les œuvres qu'on présente, pas juste des informations techniques, le prix et l'image, il y a aussi tout l'aspect, on va dire, contenu autour de l'artiste, de la galerie et du travail qui a été fait pour justement donner un maximum de clés de compréhension aux visiteurs. Et du coup, en ça, Internet permet de toucher une nouvelle cible.
Marion Papillon, est-ce que la galerie que vous dirigez est sur Internet et est-ce que est-ce que vous pensez y aller? Est-ce que vous serez un jour proche, si vous l'êtes déjà, cliente de François-Xavier Trancard?
Alors c'est évidemment des questions que beaucoup de galeries se posent aujourd'hui sur comment développer leur activité. Et en effet, comme il a été dit, la question de qu'est-ce qu'on peut faire online se pose. Mais je crois que par rapport aussi à ce qu'a expliqué Émilie Villette chez Christie's, c'est que bien sûr il y a eu un développement des ventes en ligne, mais on parle de second marché. Encore une fois, il y a une grande différence entre...
Que le second marché, c'est le marché des artistes déjà très connus, dont les tableaux ont une vie et qui sont indépendants finalement des galeries d'art.
Oui, alors bien sûr, il y a de plus en plus d'art contemporain aux enchères, mais quand on parle de second marché, c'est qu'on parle de deuxième main, pour parler plus crûment, et ça veut dire que l'œuvre a déjà été vendue une fois et qu'elle est revendue. Donc évidemment, elle a déjà une histoire sur le marché. Il est vrai aujourd'hui que les galeries qui font ce travail de premier marché, donc avec une première présentation, une première diffusion auprès du public. Et aujourd'hui, en effet, majoritairement, elle se fait encore physiquement dans l'espace de la galerie, dans l'espace des foires et quelque part dans les avec le support des grandes expositions, des grandes manifestations telles que les biennales, etc. Donc aujourd'hui, les plateformes sont en effet un nouveau vecteur, peut-être nous permettent d'aller chercher de nouveaux clients. Alors on sait aussi que en ligne, on va avoir des clients qui au contraire vont chercher en effet de l'information, mais sur des choses qu'ils connaissent déjà. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, un acheteur pour acheter une œuvre, il va peut-être repérer une œuvre d'un nouvel artiste sur un réseau social, sur Instagram ou autre. Mais à un moment donné, entre voir une œuvre, s'y intéresser et puis l'acquérir, c'est vrai que quand même la rencontre physique reste aujourd'hui nécessaire et elle reste primordiale pour pouvoir... parce que c'est une prise de risque d'acheter une œuvre.
Pourquoi est-ce que c'est une prise de risque?
C'est une prise de décision. C'est souvent l'angoisse de se tromper. Le collectionneur
de se tromper sur quoi? Puisque quand on achète une œuvre d'art, c'est parce que ça vous plaît, parce que vous voulez l'accrocher à votre mur. Et donc, quelle est l'erreur? Que le tableau n'aille pas avec votre canapé?
C'est souvent la peur de confronter au regard des autres et de ses propres choix. Ce sont des choix esthétiques. Pour certaines personnes, c'est très facile. Hein, ils ont évidemment aucune angoisse. Mais pour d'autres, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'acheteurs qui, quand on leur dit qu'ils sont collectionneurs, ils nous disent « Ah non, mais je ne suis pas collectionneur. Je n'en suis pas là, etc. parce que je n'achète justement que en coup de cœur. Je ne suis pas en train de construire quelque chose. » Donc, voilà, ça prend du temps d'assumer d'assumer, de revendiquer ses propres choix esthétiques, parce que ça, c'est des choix esthétiques. Et là, je parle pas de choix spéculatifs, hein, mais même le choix esthétique, c'est de se dire, voilà, parce que moi, j'ai choisi une œuvre, j'ai choisi de défendre et de soutenir un artiste, parce que j'y crois, parce que j'espère qu'en effet, cet artiste va marquer un tout petit peu l'histoire de l'art dans le futur.
Nathalie Moreau, vous vouliez réagir?
Quand vous parlez du marché de l'art et juste pour décorer son mur ou l'œuvre qui va avec le canapé, sur le marché de l'art, des œuvres qui s'échangent, etc., c'est un marché qui est segmenté. C'est-à-dire que vous avez un marché qui est effectivement un marché de la décoration, avec des œuvres qui servent à décorer, etc. Et puis, vous avez un marché avec des œuvres où les artistes ont une démarche, où il y a une signification qui n'est pas uniquement...
C'est un langage.
C'est un langage où... on apporte quelque chose de nouveau par rapport à l'époque, par rapport à l'histoire de l'art, etc. L'idée qu'un collectionneur a peur de se tromper, c'était assez intéressant parce qu'on avait fait une enquête avec Dominique Sago sur les collectionneurs qui disait qu'ils étaient tous au coup de cœur, mais qu'ils étaient contents parce qu'ils ne s'étaient pas trompés après parce que d'autres personnes avaient validé leur choix. Et effectivement, c'est le cas où on choisit un artiste parce que dans son langage, il apporte cette nouveauté, etc. Et ça, c'est important. Je voulais juste revenir sur deux secondes sur Internet. C'est vrai que ce qu'a apporté Internet beaucoup, ce qui a été dit dans les médias, c'est que au moment de la crise, dans les foires, les prix étaient affichés. Usuellement, en galerie, les prix sont pas affichés. Il y a une feuille où effectivement vous avez les prix, mais vous les connaissez pas comme ça quand vous rentrez dans la galerie. Et ça, il y a beaucoup de collectionneurs qui ont dit qu'ils avaient apprécié ces éléments-là parce que ça enlève une barrière par rapport aussi à la façon dont on peut aborder ce marché.
Un autre marché qui explose en ce moment, c'est le marché de l'art africain, de l'art contemporain africain. On va se rendre sur le terrain pour voir de près la vitalité de ce marché au Sénégal. Le marché de l'art est en plein développement. Dakar, la capitale, devait accueillir sa 14e biennale en 2020. Elle a été reportée. Pas de date prévue encore, évidemment. Coup dur pour les artistes, pour les galeries. Pourtant, 4 nouveaux espaces ont ouvert leurs portes récemment pendant la pandémie de coronavirus, signe d'un marché qui fonctionne bien, ou en tout cas aussi bien que possible. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Théa Olivier à Dakar.
Dans son atelier Mbao, en banlieue éloignée de Dakar, l'artiste plasticien Sambou Diouf n'a jamais arrêté de peindre au couteau. Dans cette pièce lumineuse, le peintre a terminé les toiles de sa première exposition à Dakar depuis le début de la pandémie. Les derniers mois ont été difficiles pour ce père de 3 enfants, malgré les aides reçues par l'État sénégalais à 2 reprises.
Je n'arrivais plus presque à payer le loyer pour l'atelier. En tant qu'artiste, j'ai renoncé à une exposition qui devrait se faire à Zurich, une autre exposition aussi qu'on avait programmée pour la biennale. Et finalement, tout a échoué. J'ai exposé 2 fois à Paris, qui n'a pas pu vendre. Après, j'ai exposé 2 fois de suite aussi à Amsterdam. Ça n'a pas marché aussi.
Dans la galerie Antenna, la plus ancienne de Dakar, les masques et statuettes d'art premier africain côtoient les œuvres d'artistes contemporains du continent. Désormais, la galerie n'ouvre que 3 jours par semaine. Au début de la pandémie, elle avait même fermé ses portes pendant 6 mois, explique le gérant Jean-Luc Chatignol.
Sur l'année 2020, le chiffre d'affaires, on a fait à peu près 25% de ce qu'on faisait annuellement. On essayait de conserver la trésorerie pour pouvoir fonctionner. Et grâce à cette mise en place des 70% aussi des salaires payés, ça nous a aussi bien évidemment aidé. Et on a pu conserver le personnel. 70% de notre clientèle, c'est les étrangers. La clientèle qu'on avait, qui a disparu à cause du coronavirus, on espère va revenir. Mais quand? En espérant que là, la saison touristique va redémarrer et va nous permettre de faire une année de fin 2021 et 2022 correcte.
La OH Galerie, créée en 2018, a décidé de miser sur les collectionneurs locaux. Installée dans un immeuble classé monument historique, la jeune galerie fonctionne sur rendez-vous depuis ses débuts, ce qui lui a permis de continuer à recevoir des acheteurs dans le respect des gestes barrières, selon sa directrice et fondatrice Océane Arati.
J'ai très très bien bossé pendant cette période Covid, parce que les gens en plus de ça étaient enfermés à la maison. Et donc tout l'objectif de la galerie, c'était vraiment d'aller vers ces jeunes qui ont un pouvoir d'achat qui n'est pas négligeable. Et après, au niveau de notre clientèle, on a beaucoup d'hommes d'affaires. Grâce au Covid, on a eu beaucoup de Sénégalais et qui ont acheté. Parce que frontières bloquées, vous pouvez pas aller en Europe ou à New York acheter vos tableaux et les faire revenir ici. Donc vous allez commencer à voir que, en fait, vous avez des galeries ici qui font le job aussi, quoi. Je voulais vraiment qu'on n'ait pas une dépendance au niveau du marché extérieur. 95% de mon chiffre d'affaires est au Sénégal.
Suite au report de la Biennale de Dakar de 2020, moment fort où les ventes sont habituellement nombreuses, Océane Arati reconnaît qu'il a fallu s'adapter.
Le Covid nous a obligés à nous professionnaliser encore plus. Donc il fallait que l'échange qu'on avait dans les relations physiques tienne la route sur du online pour amener de nouveaux collectionneurs et continuer à maintenir un certain lien. On n'a pas fait plus de ventes en ligne, on en a fait à la même fréquence que d'habitude. Est-ce qu'on a eu plus de visibilité en ligne ? Oui. Il faut aller sur du digital, maintenant c'est un autre métier.
Akiasi, actrice culturelle à Dakar depuis 10 ans, est aussi fondatrice de la plateforme Warart. Selon elle, l'impact de la pandémie a été à double tranchant.
On a une clientèle qui n'est pas que locale, qui est aussi internationale. Et du coup, c'était problématique parce que cette clientèle n'était plus accessible. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Il y a eu beaucoup de galeries, par exemple, qui ont monté des expositions en ligne. Tous ces outils-là nous ont permis de continuer à montrer, à vendre et pour les artistes à exister et à pouvoir survivre.
L'espoir réside dans la reprogrammation de la 14e Biennale de Dakar, autant attendue par les artistes que par les galeries et les acquéreurs.
Un reportage signé Théa Olivier à Dakar. Xing Dongsheng, finalement, que ce soit à Dakar, à Pékin, à Paris, les problématiques posées par la pandémie sont les mêmes, c'est-à-dire fermeture des frontières et développement quasi obligé de l'Internet.
Tout à fait. Je crois qu'on vit dans la mondialisation. C'est la crise, c'est sanitaire universelle. Heureusement, on a eu un printemps en 2020. C'était compliqué. Tout est fermé. On était dans le confinement. Mais depuis l'automne 2020, là, on reprend la vie normalement. Et les galeries sont ouvertes, les magasins, enfin, on continue les grandes foires d'art. Mais en même temps, comme les frontières sont coupées et sont fermées, et on cherche les différentes méthodes. Heureusement, c'est le marché à l'intérieur, comme la Chine, on parle, l'Afrique, c'est un continent. La Chine, équivalent continent africain. Et surtout, après les 40 années de réussite, l'économie chinoise et les collectionneurs locaux, sont beaucoup, sont hyper nombreux et les nouveaux collectionneurs arrivent et je crois qu'on est dans cet privilège.
Nathalie Moureau, ce marché africain, il prend une place croissante, importante ?
Alors, le marché africain, il est beaucoup plus récent que le marché chinois, et il est très très récent. Si on regarde, j'ai un peu regardé les données historiques, en 99, il y avait eu la vente de Pigozzi, donc c'est un grand collectionneur d'art africain, qui avait vendu une partie de sa collection chez Sotheby's. Les prix, donc ça avait été un grand succès, il y avait 2% d'invendus, mais les prix étaient inférieurs à 18 000 dollars. 20 ans plus tard, les prix ont été multipliés par 10 par rapport au marché africain. Mais jusqu'en 2016, quand il y avait des ventes d'art africain, il y avait aux enchères, il y avait entre 50 et 70% d'invendus, voire plus. Et c'est à partir de 2017 qu'il y a eu un changement et où il y a eu véritablement un engouement pour cet art africain. Et la grosse différence avec la Chine, bien évidemment, c'est que, mis à part l'Afrique du Sud, il n'y a pas un
réseau capitaliste.
De collectionneurs. C'est-à-dire que c'est les artistes africains qui sont promus sur la scène internationale et achetés beaucoup par la diaspora ou par d'autres collectionneurs. Et notamment, pendant les premiers à émerger, c'était des Afro-Américains ou des artistes qui résidaient en Grande-Bretagne. Et depuis très, très peu, on voit aussi des artistes africains résidant en Afrique qui émergent aussi. Mais c'est vrai que c'est un marché qui est fragile sur le plan intérieur.
Un marché émergent, comme sur beaucoup de points de l'économie africaine. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous quatre. Nathalie Mourou ici en studio. Xing Dongsheng au téléphone à Pékin. Merci beaucoup. François-Xavier Trancard, auquel je n'ai pas donné assez la parole. Mais on recommencera dans une prochaine émission. Et puis Marion Papillon, la présidente du comité professionnel des galeries d'art. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Encore beaucoup de sujets qui auraient pu être évoqués. Vous pouvez nous podcaster sur l'application Pure Radio de RFI sur vos smartphones. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va.